Ça fait plaisir de se retrouver un dimanche de plus et de pouvoir louer le Seigneur et lui rendre grâce parce qu'il est bon et il est toujours fidèle envers nous. Et c'est un grand privilège que de se retrouver entre frères et sœurs, de partager le même combat, la même foi, le même zèle. Hein. Je voulais partager tout à l'heure, quand Gabriel a donné l'occasion de partager des bénédictions, je voulais en partager une. Et puis bon, je me dis que maintenant il faudrait peut-être le faire. C'est puisque nous sommes entre frères et sœurs. Ce matin, dans le métro, je m'assieds comme d'habitude sur la ligne 6 et je trouve des petits papiers à ma place. Quoi. C'était sur tous les autres. Hein. Et c'était Jean 3,16 avec un autre verset. Voilà, tu l'as toi aussi. Voilà. Et donc, je me suis réjoui. J'ai dit, Seigneur, merci. Déjà, tu me fais commencer une belle journée. Les choses commencent fort aujourd'hui. Et puis, j'étais dans mes pensées. Et il y a une dame qui s'assied. Bon, j'étais sur une banquette. Elle s'assied à la banquette à côté. Elle n'ouvre pas un Nouveau Testament. Alors, je lui ai dit, Madame, je crois que vous lisez le même livre que moi. Alors, je lui ai dit, moi aussi, je suis chrétien. Ah, elle m'a dit, vous êtes né de nouveau. Moi, vous voyez, je suis né de nouveau. Je dis, Seigneur, c'est vraiment extraordinaire. On est un petit peuple de rien du tout, semble-t-il. Et puis, brusquement, on se retrouve dans le métro. Il y a des papiers partout. C'est le réveil, quoi. Et puis, derrière, il y a une personne qui se penche pour me dire bonjour. C'est Sylvia avec son mari et la petite Sarah. Alors, je dis, alors là, franchement... Je croyais que j'étais tout seul dans ce métro et brusquement le Seigneur avait béni richement. Et on croit vraiment parfois que nous sommes un petit nombre, que nous ne sommes pas grand-chose. Mais détrompez-vous, notre Dieu, c'est le grand Dieu. C'est le Dieu tout-puissant. Et aujourd'hui, je voudrais vous faire part de ces choses-là. C'est dans l'évangile de Marc. Marc chapitre 10, à partir du verset 46 jusqu'au verset 53. Alors Marc chapitre 10, 46 à 53, c'est ce qu'on appelle la guérison de l'aveugle Bartimée à Jéricho. Marc 10. Voilà. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle !» L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» « Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Et aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Voilà, vous connaissez cette histoire, vous l'avez lue hein, peut-être des dizaines de fois. Je voudrais régler un petit problème là. C'est que dans Matthieu, il est question de deux aveugles à Jéricho. Dans Marc, il est question de Timée et Bartimée. Et dans Luc, il y a un aveugle. Alors, est-ce qu'il y en a un, est-ce qu'il y en a deux? En fait, il y en a deux. Mais Marc parle de celui qui était connu. Donc, il parle à des gens qui devaient le connaître. Donc, il parle d'une personne connue. Donc, l'autre, il n'en parle pas, mais ça ne veut pas dire qu'il n'était pas là. Il témoigne que cet homme-là, ce Timée, Bartimée, que tout le monde connaissait, qui est probablement devenu chrétien par la suite, eh bien, était là à Jéricho. Ces fameux, vous savez, c'est ce que je vous dis, c'est vrai. La preuve, c'est que il y a Timée, Bartimée, si vous allez le voir. Tandis que deux aveugles, qui on va voir hein, c'est des témoins, mais il faut les nommer. Donc, il a nommé celui qu'il connaissait. L'autre, il ne le connaissait probablement pas, donc il ne l'a pas nommé. Donc, c'est toute la question. Dans un évangile, il y en a deux. Dans un autre, il y en a qu'un. Dans les deux autres, il n'y en a qu'un. Mais ce qui est important, c'est de voir la réaction de cet homme. Vous voyez un homme aveugle. Alors, c'est vrai que c'est une situation qui nous parle hein, de notre condition humaine. Nous sommes aveugles par rapport aux choses de Dieu. Si Dieu ne s'était pas révélé, nous ne saurions rien. Si Dieu n'a pas parlé, nous ne pourrions absolument pas parler de Dieu. Si la parole de Dieu, la Bible, n'était pas entre nos mains, nous serions dans l'ignorance totale de quoi que ce soit sur Dieu. On aurait des illuminations, des sortes de révélations, mais pas plus que les païens n'en ont. Et encore, c'est peut-être moins. C'est beaucoup de superstitions, beaucoup de choses bizarres et étranges, mais rien de vraiment sérieux. Tandis que la parole de Dieu, eh bien, nous a révélé le Dieu vivant, le Dieu éternel. Dieu s'est révélé, Dieu a parlé. Dieu nous a ouvert sa présence. Il nous a dit qui il était. Et il nous a même donné son nom. Mais nous connaissons le nom de son Fils, hein, qui est venu sur la terre. C'est un verset des Proverbes qui dit « Connais-tu son nom et quel est le nom de son Fils ?» hein. C'est un bon argument pour ceux qui parlent aux Juifs. Hein. C'est beaucoup d'Israélites se sont arrêtés à ce verset. On dit « Oui, mais il y a un Fils. Hein. Quel est le nom de son Fils ?» C'est là une bonne question, comme on dit. Mais nous connaissons le Fils. Il est venu au milieu des hommes. Il est venu, il a habité parmi nous. Il a mangé avec les hommes. Il a vécu une vie d'homme. Il s'est révélé. C'est quelque chose d'inimaginable. Jamais l'homme, dans tous ses rêves, n'aurait pu imaginer que Dieu vienne au milieu des hommes. Dieu avec nous. Et puis, Paul dit, hein, Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est quelque chose de merveilleux et inimaginable. Et voilà, cet homme, Timée, Bartimée, eh bien, était aveugle. Il ne connaissait rien. Il avait entendu parler. Ce qu'on lui avait dit était exact. Mais il espérait bien qu'un jour. Mais il n'avait jamais trouvé peut-être quelqu'un, parce qu'un aveugle, on ne sait pas, hein, il n'est peut-être pas toujours sûr de son chemin. Personne pour le conduire à Jésus. Mais le jour où il a appris que Jésus était sur le chemin, alors il s'est dit, c'est l'occasion. C'est maintenant. C'est maintenant. Si ce n'est pas maintenant, ce ne sera plus jamais. Et les autres lui disaient, mais tu es fou, arrête, ne crie pas comme ça. Et il a crié encore plus fort. À chaque fois qu'il criait, il criait plus fort. Il voulait, et il demandait, fils de David, aie pitié de moi. C'est quelque chose de voir cette persévérance à obtenir une audience auprès du Seigneur Jésus. C'est le propre des personnes qui veulent vraiment ce qu'ils veulent. Ils importunent le trône de la grâce. Vous savez, c'est la parabole du juge unique. Hein. C'est ce juge qui était poursuivi par cette veuve qui lui demandait justice de sa partie adverse. Et puis le juge lui dit, quoi que je ne craigne pas Dieu, quoique, eh bien, parce qu'elle m'importune, je vais faire ce qu'elle demande. Et il a dit, mais le Seigneur Jésus a dit, à plus forte raison, votre Père céleste qui vous aime et qui n'est absolument pas un juge unique, hein. Et si un juge unique peut faire quelque chose parce qu'on l'importune, à plus forte raison, le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, est-il capable pour exaucer nos prières et venir à notre secours? Quand nous crions à lui, mais sérieusement, vraiment, quand on veut vraiment ce qu'on veut, il y a des personnes qui veulent quelque chose, un petit moment de leur vie. Voilà. Ils ont un petit caprice, une petite envie. Mais deux jours après, ils ont oublié. Ils ne peuvent pas attendre quelque chose de la part de Dieu. Tandis que celui qui se tourne vers Dieu et qui crie et qui dit « Seigneur, sauve-moi, je suis perdu, je suis dans mes péchés, je suis esclave de toutes sortes de choses, je suis aveugle, je ne vois rien. » Eh bien cet homme-là, s'il le veut vraiment, il peut trouver le salut, trouver la paix de Dieu en Jésus-Christ. C'est ce que peuvent témoigner beaucoup de personnes, hein, qui peuvent dire « Un jour j'étais perdu, un jour j'étais aveugle et maintenant je vois. » Je peux vous dire « Un jour j'étais perdu, je sais que j'étais perdu, mais je sais que quand j'ai demandé pardon à Dieu, à l'instant même quand je me suis relevé, j'étais sauvé, j'étais lavé de mes péchés, je n'ai pas adopté une nouvelle religion, je n'ai pas changé mon mode de vie, je ne me suis pas amélioré d'une manière sensible. » Mais ce que je peux dire, c'est que mes péchés étaient pardonnés et j'étais réconcilié avec Dieu. J'ai crié à Dieu. Pour moi, je peux dire, il n'y avait plus rien qui comptait que le pardon de Dieu. Je travaillais et je me suis vu en enfer. Hein. J'ai compris que j'allais en enfer. Et j'ai dit, Seigneur, je ne te demande pas une longue vie. Je te demande simplement le temps qu'il faut pour me mettre en règle avec toi. Après, tu fais ce que tu veux. Parce que le plus important pour moi, c'est d'être en règle avec toi. Et c'est, je me suis mis à genoux. Quand je suis rentré du travail, je me suis mis à genoux et j'ai demandé pardon à Dieu. Je n'ai pas eu une seconde. Hein. Je suis arrivé, j'ai posé mes affaires, je me suis mis à genoux, j'ai tout mis en règle. Et j'ai été sauvé, lavé de mes péchés, réconcilié avec Dieu. À la seconde même, hein. Il ne m'a pas fallu, comme je vous ai déjà dit, adopter une religion ou avoir une nouvelle forme de vie. Hein. Ça a été, le fardeau de mes péchés était enlevé. J'étais libéré, affranchi, totalement. J'étais aveugle et j'ai vu. J'étais perdu et j'ai été sauvé. J'étais dans les ténèbres et je suis rentré dans la lumière. Le Seigneur Jésus est devenu toute ma vie. Même encore aujourd'hui, après 40, un peu plus, hein, ça tourne vers les 5 maintenant, c'était en 69, eh bien, oui, ça fait, hein, ça commence à tourner, hein, eh bien, c'est depuis ce jour-là, je suis encore ému quand je parle de mon Seigneur Jésus, qui m'a sauvé, qui m'a lavé de mes péchés, qui m'a réconcilié avec lui-même par son sang. C'est quelque chose d'extraordinaire. Un jour, j'étais perdu, maintenant, je suis sauvé. Ça, c'est quelque chose, vous savez. C'est Dieu répond à ceux qui veulent vraiment ce qu'ils veulent. C'est ils prient, ils demandent et ils obtiennent. C'est j'ai une très belle parole d'un certain Adolphe Monod qui a écrit, ce n'est pas un poème, mais c'est il parle de l'homme de prière et de deux hommes de prière. Il parle d'un homme qui prie, sa petite vie de prière, voilà, on prie. Il dit, sa vie de prière serpente lentement dans la plaine. Tandis que l'autre vie de prière, eh bien, c'est le torrent qui descend des montagnes, la source pure et fraîche et qui bondit et qui va de frôle les précipices, qui descend des pentes, qui bouleverse tout sur son chemin. C'est l'autre forme de prière. Il a dit, le premier obtient parfois, de temps en temps. Il observe ses temps de prière, ses moments et ceci. Et l'autre, eh bien, insiste, pleure, sue du sang, obtient tout et toujours. J'ai cette phrase, hein, il obtient tout et toujours. Parce qu'il prie dans la volonté de Dieu, dans la certitude de l'exaucement, dans la conviction que le Dieu Tout-Puissant est du côté de celui qui prie et qui intercède et qui lutte dans la prière. Oh, bien sûr, si vous priez pour vos ambitions, si vous priez pour vos convoitises et toutes ces choses, bien évidemment, vous ne pouvez pas attendre de Dieu qu'il vous exauce. Mais si vous priez pour la gloire de Dieu, si vous priez pour l'avancement de son règne, si vous priez pour votre salut, si vous priez pour être libéré, pour être affranchi de vos péchés, de ce qui vous tient, de ce qui vous lie, si vous priez sérieusement pour vivre une vie chrétienne plus proche de Dieu, dans une meilleure communion, alors je peux vous dire... Il n'y a aucune raison que Dieu n'exauce pas vos prières. Je me rappelle d'un frère qui disait, il avait une autre stature hein, que moi, il disait, parfois j'ai la foi de prier pour que 10 personnes viennent, 10 inconvertis viennent à la réunion d'évangélisation. Et d'autres fois, je n'ai la foi que pour 2. Mais je prie jusqu'à ce que j'obtienne de Dieu la conviction qu'il va y avoir 10 personnes, et parfois, ben, ce n'est que 2. Mais déjà, il faut le faire. Il faut déjà être cet homme ou cette femme qui prie et qui obtient de Dieu que des gens viennent par la prière. C'est comme cela. Donc, c'est la prière de la foi. Il y a une prière de foi et de conviction. Une prière qui est enracinée sur le Seigneur Jésus-Christ, qui est enracinée dans la parole de Dieu, dans les promesses de Dieu. Dieu a dit, Dieu a parlé. Dieu ne parle pas en vain. Vous lisez votre Bible. Je regrette, mais beaucoup de chrétiens ne lisent pas de la même manière que ce qu'il faudrait. Hein. Certains lisent la Bible un peu comme un roman. Voilà, ils se renseignent sur tout ce qui est écrit dans la Bible. Et d'autres disent, ça Seigneur, c'est une promesse. J'y tiens, j'y crois, et je m'attends à toi. Et c'est quelque chose, vous savez, quand vous avez une promesse. C'est dans l'Épître aux Hébreux, il est dit que c'est par la foi qu'ils obtinrent des promesses. Ils obtinrent des promesses. Il y a des personnes qui disent, mais j'attends la réponse de Dieu, parce qu'il y a 20 ans, il y a 30 ans, Dieu m'a promis qu'il ferait cela. Il l'a dit, je l'attends. Ils attendent. Ils peuvent attendre encore 30 ans de plus, mais ils savent que Dieu a dit et qu'il a promis. C'est, mais ils obtiennent des promesses par la foi. C'est, nous sommes à une époque malheureusement où on se laisse aller, on se dit bon ben la Bible oui c'est un bon livre et nous mais la parole de Dieu, la Bible oui mais elle est inspirée de Dieu. Ah mais il n'y a pas de problème. Nous sommes tous convaincus de la doctrine de la parole de Dieu. On peut même dire moi je crois à toute la bibliologie. Hein? C'est la doctrine de la Bible. Hein? C'est, mais beaucoup de personnes ne connaissent pas les termes exacts de la théologie, mais mettent en pratique la parole de Dieu et sont appuyés, enracinés sur la parole de Dieu de telle manière qu'ils voient Dieu agir dans leur vie. C'est quelque chose, vous savez. Je me rappelle, il y a, bon, maintenant il y a bien longtemps, hein, j'habitais Toulouse à l'époque et ça date un petit peu. Les décennies sont passées. Mais j'avais eu pas mal de problèmes et donc je me trouvais dans une situation difficile et je suis rentré d'une réunion de prière complètement accablé. Accablé, mais vraiment au-delà du possible, parce que j'étais dans une grave épreuve, même plusieurs épreuves, mais une qui était plus grave que les autres. Et j'ai crié à Dieu. Je suis rentré dans ma voiture parce que j'habitais avec mon frère et mes sœurs. Donc je suis rentré dans ma voiture pour être seul. Et là, j'ai prié, j'ai vraiment dit, Seigneur, qu'est-ce que tu fais de ton serviteur? Je suis vraiment dans la détresse, et tu le sais. Pourquoi est-ce que tu ne fais rien? Pourquoi tu n'interviens pas? Et j'ai dû répandre ma plainte devant le Seigneur, hein, comme le psalmiste qui répandait sa plainte devant l'Éternel. Et je priais, je priais, je priais. Et à un certain moment, je me suis dit, mais tu pries à aller jusqu'au bout. Si Dieu, par cette épreuve, te conduisait en prison. Est-ce que tu serais prêt à aller en prison? S'il a un plan, son plan, c'est d'aller en prison. Est-ce que tu es prêt à y aller? C'était un combat et je dis, Seigneur, quoi qu'il en soit, je veux te suivre. Je suis prêt à tout perdre pour toi. Et même s'il faut aller en prison, j'irai en prison. Je suis prêt, Seigneur. Et alors à ce moment-là, le Seigneur m'a donné une paix qui surpasse toute intelligence, c'est ce qui est dit hein, dans l'Épître aux Philippiens, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Et il m'a donné un verset, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Oh, c'était un verset vraiment extraordinaire. Je l'avais appris par cœur quelque temps avant, et ça m'a bien servi il est revenu à mon souvenir à ce moment-là. Et cette paix immense, je savais que Dieu allait résoudre le problème le lendemain. Quand je suis rentré et je suis monté chez moi, comme j'étais très occupé, je n'avais pas eu le temps de lire mon petit livre de méditation avec des versets. Et le dernier verset, c'était celui-là. Mais franchement, hein, c'est vraiment, c'est notre Dieu et le Tout-Puissant. Et je peux vous dire, le lendemain, avant midi, tout était réglé, terminé. Cette affaire, toutes ces affaires, on n'en parlait plus. Terminé. Mais à un moment, il faut fléchir le genou devant Dieu. Il faut dire, Seigneur, ta volonté, je suis prêt à tout perdre pour toi. Seigneur Jésus, tu es le Seigneur de ma vie. C'est toi qui diriges ma vie, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui te dirige, c'est toi qui me diriges. Je ne te demande pas de faire ma volonté. Me voici pour faire, ô Dieu, ta volonté. Et si je prie et si je demande quelque chose, c'est dans ta volonté. Et beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens, eh bien, souhaiteraient que Dieu fasse leur volonté. Voilà. Et nous avons des multitudes de volontés, de ceci et cela. J'aimerais bien faire ceci, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien aller là. Et il y a des personnes qui, vous serez étonnés de certains souhaits qui peuvent germer dans votre cœur. C'est, oh, qu'est-ce qu'on souhaite? Mais on est chrétien, on est né de nouveau, on est réconcilié avec Dieu. Qu'est-ce que l'on souhaite? La croissance de l'Église de Dieu. Ce que l'on souhaite, c'est la gloire de Dieu. Ce que l'on souhaite, c'est que les âmes soient sauvées, que les pécheurs passent de la mort à la vie. Voilà notre souhait. Voilà ce qui bouleverse notre cœur. Vous êtes dans un métro, vous voyez des multitudes sans Christ. Le cœur est bouleversé. On se dit, mais ils sont perdus. Ils sont perdus. C'est par métro entier qu'ils vont en enfer. C'est de ceux qui voyagent, combien atteindront demain? C'est demain, ils seront morts, ils seront perdus. Et nous sommes en train de penser à nos petits trucs et nos petits machins et choses. Mais il y a beaucoup plus grand que cela. Il y a la gloire de Dieu. Il y a le règne de Christ. Il y a les âmes perdues. Il y a la croissance de l'Église de Dieu. Il y a les frères et sœurs qui souffrent. Il y a les frères et sœurs qui sont persécutés pour leur foi. Tout cela, ce sont des fardeaux immenses. Et il faut des prières. Il faut des hommes et des femmes qui luttent dans la prière, qui obtiennent des victoires dans la prière, qui combattent jusqu'à ce que Dieu réponde à la prière. Et c'est, je peux vous dire, c'est quelque chose qui s'est passé dans le passé. Il y a eu des chrétiens comme cela. Et ils ont obtenu des réponses aux prières. Je me rappelle de l'histoire de cet homme. Il avait des dettes. Et alors, il a prié, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas d'assurance chômage, il n'y avait pas d'aide quelconque. Hein. Si on tombait malade, eh bien, on était vite en dette. Hein. Parce que le boulanger, il faisait l'avance jusqu'à un certain point. Hein. Mais à un certain moment, il disait, maintenant, il faut me payer parce que je ne peux plus. Parce que moi aussi, je dois payer. Alors, c'était logique. Et alors, il est allé dans un fossé, c'était une ville qui était entourée de murs. Et là, pour aller à la pêche, aller pêcher quelques poissons, il est allé chercher des vers dans le fossé parce que c'était plus humide. Il a planté sa bêche. Il a trouvé 3 pièces d'or. Alors, il venait de prier. Alors, il les a sortis et il est allé voir le pasteur. Il a dit, voilà, j'ai trouvé ces pièces d'or et qu'est-ce qu'on peut faire? Et alors le pasteur s'est arrangé avec lui et tout, et il a pu se sortir d'affaire. Mais les gens sont allés, parce que quand ils ont appris qu'il y avait des pièces d'or dans le fossé a été désherbé et ratissé. Hein. Personne n'a rien trouvé. Personne. Le miracle était là. Il a prié et il a mis la bêche exactement là où il fallait qu'il le fasse. Je ne sais pas s'il est allé pêcher son poisson après, hein. Mais de toute façon, il a obtenu l'exaucement à la prière. Il y a cette persévérance, cet homme qui crie, qui demande, qui lutte, et puis les autres qui disent, mais non, mais tu vas n'importune pas, tu te rends compte, tu pries avec beaucoup trop d'intensité, il faut te modérer, voyons, tu es trop incisif dans ta prière. Il faut être plus, voilà, si tu le veux, si tu le permets, si tu ceci, si tu cela, on met des nuances et tout. Mais Dieu a fait des promesses dans sa parole. Et je me rappelle de ce frère qui priait, il priait à genoux, avec la Bible devant les yeux. Et quand il priait, il cherchait dans sa Bible un verset, il disait, Seigneur, mais là, tu l'as dit. Tu l'as dit. Il mettait le doigt sur le verset. Il dit, tu l'as dit, Seigneur, je le crois, j'attends. C'est Dieu veut exaucer les prières, il veut répondre. Et cet homme qui a crié au Seigneur Jésus, eh bien, il a obtenu ce qu'il a demandé. Il a obtenu, parce qu'il a voulu vraiment. Mais imaginez qu'il soit resté au bord du chemin, tranquillement assis. Il dit, s'il passe près de moi, s'il m'adresse la parole, alors je vais lui dire, écoute, il y a un aveugle qui est là, et qui ne te voit pas, mais qui aimerait bien voir. Voilà. Peut-être si tu le peux, si tu le veux. Si tu insistes, alors bon, si c'est de la volonté, hein, ta volonté, fais-le. Mais cet homme a eu l'audace de demander quelque chose d'impossible. Il a demandé quelque chose avec insistance, importunité, jusqu'à ce qu'il l'obtienne. Malgré que les autres lui disaient, mais non, tu en fais trop quand même. Hein. Et plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Il dit, mais non, mais avant, tais-toi, il passe, c'est tout. Il va à Jérusalem, il n'a pas besoin de s'occuper de toi. Laisse, laisse. Alors, qui sont ces gens? C'est n'importe qui. Mais ces personnes-là sont toujours là pour vous dire, mais tu en fais trop. Pourquoi tu demandes ça? Pourquoi est-ce que ceci? Pourquoi est-ce que ça? Mais si on est aveugle et si on a besoin de voir? Alors je peux vous dire, on crie à Dieu jusqu'à ce qu'on obtienne. Et Jésus s'arrêta, appela et appelez-le, dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, maintenant ils ont un autre langage, prends courage, il t'appelle. C'est et vous savez, c'est un grand soulagement le jour où Dieu nous parle. Vous obtenez une promesse de Dieu. Je me rappelle un jour, je suis arrivé à Paris, j'étais dans un désespoir terrible. Hein. Je venais de subir une grande épreuve. Je ne dirais pas tout, hein, parce que ça concerne d'autres personnes. Hein. Mais j'avais subi une très grande épreuve. Et j'ai crié à Dieu dans l'angoisse de mon âme. Hein. Et pendant quelque temps, j'étais à crier à Dieu et vraiment, je n'étais pas bien. Et puis, Dieu m'a fait deux promesses. Deux promesses. Il m'a fait une promesse pour ma vie future. Et il m'a fait une promesse pour mes enfants. Il y a maintenant, c'était en 92. Novembre 92. Et depuis cette époque-là, ces promesses, je les garde précieusement. Il me les a données. J'attends l'exaucement. C'est parce que Dieu est fidèle. Il a parlé. Prends courage, il t'appelle. Il y a un moment où vous avez la promesse. Dieu a dit, il t'appelle. Il te dit ce que tu souhaites entendre. Alors, il n'y a pas de problème. Je me rappelle un jour, j'étais sur une route, en train de rouler tranquillement avec ma voiture, et je priais pour une personne que je n'avais pas vue depuis des mois. Et je priais pour cette personne tout en conduisant. C'était la route de Banyuls. Je me rappelle presque le tournant. Bon, maintenant, ils ont changé la route. Hein. Il n'y a plus tous ces tournants. Ils existent toujours, mais on n'y passe plus. Mais il y avait 100 tournants. Alors, je me rappelle le tournant. Et c'est la sortie de Banyuls. Alors, je roulais tranquillement et je priais pour cette personne. Et le Seigneur m'a donné la conviction que j'allais la rencontrer le mercredi. Mais une conviction telle que quand je l'ai vue le mercredi, je lui ai dit, mais je savais que j'allais te rencontrer. C'est aucun doute là-dessus. Dieu répond aux prières. Il exauce. Quand on prie, on peut obtenir, on obtient des réponses à nos prières. Parce que Dieu est fidèle. C'est celui qui crie à Dieu. Il n'y a pas de raison que Dieu ne réponde pas. Cet homme, on lui a dit, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Ça, c'est quelque chose, vous savez. Dieu parle, Dieu nous appelle, Dieu nous dit quelque chose. C'est lui-même qui parle et qui nous parle à nous. Quand vous avez une promesse, c'est pour ça que je racontais mes histoires de promesses, quand vous avez une promesse, vous dites, Dieu m'a donné une promesse. Dieu m'a appelé, Dieu m'a fait l'honneur de me dire quelque chose, de me faire rentrer dans son conseil, de me donner un aperçu de ce qu'il veut faire. Ça concerne ma vie, mais c'est sa volonté, c'est son plan. Il m'a donné une indication de ce qu'il va faire. Et je suis heureux de ce que Dieu m'appelle et qu'il me parle et le grand Dieu, le Dieu Tout-Puissant, s'intéresse à moi. Je ne suis pas un orphelin sur la terre. On peut perdre son père et sa mère, on ne peut pas perdre Dieu. On peut perdre les êtres les plus chers que l'on a au monde. Mais Dieu reste toujours le même. Il reste toujours là. Nous pouvons toujours nous tourner vers lui. Nous pouvons toujours lui dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Je suis dans la détresse aujourd'hui. Je suis dans la peine. Apporte-moi une parole de consolation. Dis-moi ce que j'ai besoin d'entendre. Combien de fois on dit, Seigneur, parle-moi, enseigne-moi, montre-moi tes voies. Dis-moi ce que j'ai besoin d'entendre. Fais connaître tes voies à mon cœur. Conduis-moi dans la voie droite. Dans le bon chemin, éclaire mes ténèbres de ta lumière. Je ne sais pas où je vais, je ne sais pas où je suis, mais je te demande, Seigneur, de m'éclairer, de me montrer. Prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Ah, vous voyez, il attendait cela, il lui manquait simplement qu'on lui dise, vas-y. À ce moment-là, il s'est débarrassé de tout ce qui pouvait l'entraver. Il pouvait se prendre les pieds dans le manteau, hein, en se précipitant vers Jésus. Mais le manteau, il l'a mis par-dessus l'épaule. Hein. Il est passé, il est allé, voilà, il d'un bond et vint vers Jésus. Voilà, ça c'est la réponse immédiate, instantanée. Il n'a pas dit, est-ce que vous êtes sûr qu'il m'appelle? Tout de suite, on lui a dit, il y est allé instantanément en se débarrassant de tout ce qui pouvait le gêner. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Parce que Dans ces situations-là, Dieu veut que l'on décrive la chose. Et il le sait. Dans un psaume, il est dit, hein, avant que la parole soit dans ma bouche, tu la connais entièrement. Il connaît nos cœurs et nos pensées. Donc même les paroles, si on prononce des paroles, il a déjà lu dans notre pensée avant que nous l'exprimions par des paroles. C'est quelque chose de merveilleux, extraordinaire. Mais Dieu veut que l'on parle. Il veut que l'on demande, que l'on s'adresse à lui. Pour quelle raison? C'est qu'il est Dieu. Et nous sommes des humains. Et nous dépendons de lui. Ce n'est pas facultatif. C'est pas « Seigneur, tu sais tout ce dont j'ai besoin, alors fais selon ce que tu sais. » C'est le « Dieu veut que l'on exprime par nos paroles ce dont on a besoin. » On lui dit « Seigneur, j'ai besoin de ça. J'ai besoin que tu interviennes dans cette situation-là. J'ai besoin que tu parles au cœur de cette personne. J'ai besoin que ton église grandisse. J'ai besoin que les choses aillent mieux, qu'il y ait quelque chose qui soit changé. J'aimerais que ce soit différent. Je ne sais pas, il y a des chrétiens, des frères et des sœurs qui ont prié intensément, qui ont vraiment voulu. Et je peux vous dire qu'il y a des églises qui ont changé. Parce qu'un petit groupe, je ne dis pas la majorité de l'église, non, parfois deux, trois personnes se concertaient ensemble pour lutter dans la prière jusqu'à ce qu'ils obtiennent la réponse à la prière. Et ils ont obtenu ce qu'ils ont demandé. Et les choses ont changé parce qu'ils l'ont voulu vraiment. Et ils l'ont exprimé devant Dieu. C'est un grand mystère pour moi. Je veux vous dire que pourquoi Dieu n'intervient pas sans nos prières. J'aimerais bien qu'il intervienne sans qu'on prie. Hein, parce que je vois tellement de problèmes. Je dis, Seigneur, il y a des problèmes. Mais ce qu'il voudrait, c'est que l'on prie pour les problèmes et que l'on dise, Seigneur, j'attends. Parce que c'est un mystère sans en être vraiment un. C'est qu'il y a un combat. La prière est un combat. Il faut lutter, il faut se battre. Il y a un ennemi de Dieu qu'il faut vaincre. Et la victoire sur cet ennemi, c'est la prière de la foi qui est basée sur la parole de Dieu. Dieu a dit. Voilà. C'est ce que le Seigneur Jésus, hein, quand il a été tenté, il a dit la parole de Dieu. Dit. Dieu a dit. Il est écrit à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Il a eu raison de l'ennemi. Il a été tenté, mais il a été vainqueur. Pourquoi? Parce que sa foi a été appuyée sur la parole de Dieu. Il n'a pas fait que citer la parole de Dieu. C'était déjà beaucoup de la citer. Mais il l'a citée avec foi. C'est la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il n'a pas récité cela. Il y croyait vraiment. C'était toute la différence, hein, avec certaines prières. Où on dit, Seigneur, si tu le veux, peut-être que ça se fera comme ça. Mais on n'est pas difficile. Hein. Si tu ne le fais pas maintenant, tu le feras dans 10 ans. Bon, ben, on verra bien. Hein. On est modeste, nous. On ne fait pas de forcing, etc., etc. Mais ce sont des prétextes. Parce que la réalité, c'est qu'on est incrédule. Et que l'on ne prend pas Dieu au mot. Et puis, je peux vous dire, il y a un temps. Quand on décide de marcher avec Dieu, il y a un temps où on est dans, tenté. C'est, oui, mais Dieu va-t-il me répondre? Quand je lis la parole de Dieu, oui, mais ce verset-là, bon, c'est, j'ai la page à côté de ma Bible. Hein, c'est chapitre 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors, je vois d'ici des personnes dire oui, mais dans certaines circonstances, il y a la volonté de Dieu, mais il y a l'effet que nous sommes au 21e siècle. Quand ça a été écrit, c'était au 1er siècle et c'était avec le Seigneur Jésus. Mais dans ce qu'on lit, il n'est pas écrit que c'est écrit pour le 19e siècle ou pour le 20e siècle ou pour le 1er siècle, mais c'est écrit à tous ceux qui le lisent. Et quand je le lis, c'est la vérité. C'est la vérité de Dieu. On s'appuie sur sa vérité, sur ce qu'il dit. C'est quelque chose de très important de pouvoir s'appuyer sur Dieu et de pouvoir Dieu dire Dieu, mon Dieu a parlé. C'est Dieu a dit. C'est l'homme peut dire, mais ce que dit l'homme, ce que dit Satan, si ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu, ça n'a aucune importance. L'homme peut vous donner beaucoup d'arguments. C'est après tout, les arguments ne coûtent rien. Hein. On peut essayer de dissuader quelqu'un, et puis on sent que celui-là, il avance un peu trop vite, on voudrait qu'il se ralentisse un petit peu, parce que nous, on ne suit pas. Donc il y a aussi des choses comme cela. Hein. Mais Dieu a parlé, Dieu a dit. Et je peux vous citer ce verset 24, hein, chapitre 11, verset 24, « Apprenez-le par cœur. » C'est une parole divine. Ne la laissez pas tomber à terre. Ne la méprisez pas. Ne tournez pas la page tout de suite. Mais prenez au sérieux ce genre de parole. Les gens vont dire, plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Alors on veut dire, mais tu sais, limite-toi. Hein. Ce verset, il faut lui donner un cadre. On a l'impression qu'il est plus vaste que l'océan, plus vaste que l'univers. Parce que hein, tout ce que vous demanderez, c'est tout, ça veut dire tout. Hein. Et vous savez, en grec, tout, c'est beaucoup plus absolu que tout en français. Hein. Tout, déjà, ça veut dire tout. Mais en grec, c'est vraiment tout. Ça va beaucoup plus loin. Hein. Mais tout ce que vous demanderez, quand cet homme a crié au Seigneur Jésus pour être guéri, alors tout était possible. Tout était possible. Et le Seigneur Jésus l'a interrogé, il a dit « Que veux-tu que je te fasse ?» Et il a osé tout. Il a dit « Que je recouvre la vue. » Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et vous savez, ce mot rabouni, c'est un mot doux, très doux. Quand Marie de Magdala, ça aussi c'est un de mes passages, je ne peux pas trop en parler sans être ému, mais quand Marie de Magdala a rencontré le Seigneur Jésus au tombeau, elle a dit « Rabouni ». C'est quelque chose comme mon cher maître. Le « i », c'est un possessif en hébreu et en araméen. Donc, docteur Israël peut le dire mieux que moi. Donc, c'est doux. C'est tendre. Il n'a pas dit Rabbi. Déjà, Rabbi, ça aurait été très beau. Mais il a dit Rabouni, mon cher maître. Jean-Luc, c'est bien ça. Hein? Oui, je ne me trompe pas. Je ne veux pas vous... Maintenant, j'ai un doute. Mais c'est mon cher maître. On sent que vraiment, il ne connaissait pas le Seigneur Jésus. Puis, il ne l'avait probablement pas rencontré. Mais déjà, il y a une intimité avec le Seigneur Jésus. Déjà, il prend des libertés. Il lui dit, mon cher maître, c'est que je recouvre la vue. Et à ce moment-là, le Seigneur lui a donné une parole qui est extraordinaire. Il n'a pas dit, je le veux, recouvre la vue. On aurait été content qu'il dise la chose comme cela. Hein? Après tout, ça nous aurait, comme on dit, dédouané. Mais le Seigneur Jésus dit une parole qui nous laisse avec une responsabilité. Il lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Il n'a pas dit, il aurait pu dire, je te guéris. Par ma puissance, je te guéris. C'était aussi exact. Mais là, il fait entrer tout à fait une autre notion. La puissance de Dieu est incontestable. Mais la puissance de Dieu ne peut s'exercer que par la foi. Et il dit, va, ta foi t'a sauvé. C'est la foi qui fait agir, qui fait bouger les choses. C'est la prière de la foi qui a une grande efficace. Tandis que la puissance de Dieu, elle est là. Elle est à notre disposition. Le Seigneur Jésus a dit, hein, le verset que j'ai lu, Tout, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en mon nom, en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est la puissance de Dieu est là. Tout est devant nous. Nous avons tout. Mais ce qui manque, c'est de le vouloir vraiment. Parce que de le vouloir vraiment, il faut avoir vraiment la foi. Il faut avoir une foi conquérante. Une foi qui dit, je ne te laisserai pas aller que tu ne m'aies béni. J'irai jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et j'ai lu beaucoup de biographies de chrétiens qui un jour se sont mis à genoux dans leur chambre et ont dit, Seigneur, cette nuit ne se passera pas que j'ai obtenu ce que je te demande. J'y passerai la nuit, j'y passerai le lendemain, je ne mangerai pas, j'obtiendrai ce que je demande. J'irai jusqu'au bout. Je me rappelle de cette petite jeune fille, elle s'appelait Grace d'ailleurs, elle est décédée très très jeune. Elle s'est convertie, et c'était une jeune fille toute joyeuse et heureuse, elle était canadienne. Elle était heureuse de sa foi et vraiment elle était bouillante pour le Seigneur Jésus. Et puis les autres chrétiens lui ont dit, les chrétiens plus âgés, hein, qu'eux, ils en connaissent, hein, ils lui ont dit, bah, tu sais, tu seras un jour comme nous, hein, tout ça, tu as la joie maintenant, mais ça, bon, ça, c'est assez, c'est pour un temps tout ça. Hein. Elle les a regardés droit dans les yeux. Elle dit, ça ne passera jamais. C'est pour toute ma vie que j'ai cette joie. Et en effet, c'était toute sa vie. Elle est morte prématurément. Hein, je ne me rappelle plus de quelle était la cause de son décès. Mais si vous le voulez vraiment, vous l'aurez. Parce qu'il faut le voir vraiment et par la foi. C'est ceux qui disent, oui, mais si c'est la volonté de Dieu, mais vous savez en quel temps nous sommes, vous voyez les circonstances, vous voyez toutes ces choses, eh bien, ceux-là n'obtiennent jamais rien. Parce qu'ils mettent trop, ils ne mettent pas Dieu au pied du mur. Et ils ne disent pas, Dieu a dit, Dieu a parlé. La parole de Dieu est exacte. Quand Dieu parle, il ne parle pas pour rien, il ne parle pas en l'air. Les paroles de Dieu sont précieuses, elles sont sérieuses, elles sont précises. C'est Dieu a dit. Et si Dieu a dit, c'est comme la Bible, je peux dire, c'est un livre de loi. Du point de vue juridique, on peut dire que c'est un livre de loi. Quand Dieu parle, c'est scellé, c'est dit. Ça ne peut pas être changé. C'est comme une loi. Ça doit se faire. Quand Dieu parle, ce n'est pas... ce que Dieu a dit qui doit changer, c'est moi qui dois changer. Si Dieu parle, je me conforme à ce que Dieu a dit. Mais je ne conforme pas ce que Dieu a dit à ma personne. Alors, comme on sait bien qu'on ne pourra pas le changer, ce que Dieu a dit, alors on en sait le moins possible. Et on se tient loin de ce que Dieu dit. Et on met des distances avec ce que Dieu dit. Mais je vous dis, Dieu ne nous tiendra pour responsables de ce qu'il a dit dans sa parole, de ce que nous avons lu et de ce que nous avons négligé. Parce que Dieu l'a vraiment dit. Si vous ne tenez pas compte de ce que Dieu dit, alors vous dites, oui, mais je ne l'ai pas lu, mais je n'y ai pas fait attention. Eh bien, je peux vous dire, lisez-le et faites attention. Soulignez dans votre Bible, notez des versets, apprenez par cœur, nourrissez-vous des promesses de Dieu, repassez-les dans votre cœur. Ne laissez pas passer une journée sans avoir lu une promesse de Dieu, au moins, et avoir mis votre foi dans la parole de Dieu, dans la promesse de Dieu. Je le crois, Seigneur, tu l'as dit, parce que tu l'as dit, je le crois.